Le ministre André Lamontagne, à travers tous les défis que pose actuellement la pandémie du COVID-19, constate avec une certaine satisfaction que les filières réagissent efficacement et que les différents partenaires font montre d'une grande solidarité. J'ai fait le point avec le ministre. Monsieur André Lamontagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lévesque, bonjour.
Monsieur Lamontagne, une période assez occupée pour vous, là, je présume, actuellement, avec tous les problèmes, tous les défis là, qui apparaissent dans le monde agroalimentaire en parallèle à cette pandémie là, du coronavirus. Là.
Oui, tout à fait. Puis écoutez, j'aime mieux quand vous dites le terme défi que problème, parce que c'est sûr qu'on rencontre des problèmes, on les voit vraiment comme des défis, et puis on est à la tâche, mais c'est des équipes de travail, c'est toute une collaboration de toute la chaîne bioalimentaire. Alors, on est vraiment organisé, puis j'ai mis en place une structure vraiment pour avoir le pouls de tout ce qui se passe sur le terrain pour qu'on soit en mode solution tout le temps. Fait que non, écoutez, c'est effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux puis de travail. Puis des fois, je dis, on a de multiples enjeux qu'on prend un à la fois, mais tout en même temps. Mais ça se passe très bien.
Ces défis-là, là, prenons-les un par un. Là. Si je vous parle des abattoirs, quand on dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait rupture dans la chaîne alimentaire, là, si on a de la difficulté à abattre les animaux, là, ça pose toutes sortes de problèmes.
Oui, bien, tout à fait. La question des abattoirs, bien, vous savez, avec l'expérience que vous avez, M. Levac, toute la chaîne du vivant, là, c'est pas quelque chose que tu peux interrompre, ralentir une journée, deux jours, puis repartir, parce que maintenant, il y a des naissances, on les engraisse, on les prépare pour l'abattage, on les amène à l'abattoir, puis après ça, on les transforme, mais on les envoie pour la commercialisation. Les abattoirs se situent en toute fin de ce cycle-là. Alors, naturellement, si le rythme à l'abattage est réduit de façon systématique pendant de longues périodes, ben il y a une accumulation d'animaux là, qui se fait à l'entrée en amont. Alors, le défi, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas cette accumulation-là. Là. Au-delà de la rupture, là, c'est qu'on faut pas qu'il y ait de ralentissement de cadence, encore moins naturellement d'arrêt de la cadence. Ça fait que c'est un grand défi. C'est un grand défi.
Dans le secteur laitier, bien, on l'a vu, il y a des producteurs qui ont été invités à la demande de leur fédération à jeter du lait parce que les usines n'étaient pas en mesure de le prendre parce que les marchés ont chuté. Et ça, est-ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire au Québec peut faire quelque chose devant une situation comme celle-là?
Ben, écoutez, d'abord, la réalité, c'est que il y a deux aspects, là. Il y a le fait que la demande a baissé d'une façon abrupte, là. C'est pas quelque chose qui s'est passé sur plusieurs mois, là. Mais c'est comme en quelques jours. Puis l'autre chose aussi, c'est que les profils de ce qui est acheté chaque jour maintenant par les consommateurs ont changé. Fait que les deux ensemble font que subitement, on se ramasse que avant il y avait une transformation de X millions de litres. En réalité, c'est 65 millions de litres là, qui est transformé chaque semaine au Québec. Que subitement, ben là, on a une baisse de quelques pourcents qui fait que ça représente des défis à court terme. Mais je vous dirais, la semaine passée, on avait à peu près 2 700 000 en excès sur le marché, là, selon ce que la direction des producteurs me disent. Puis il y a 2 millions de litres qu'un transformateur a accueilli gratuitement, puis que lui, son usine fonctionnait plus parce qu'il fait de la crème, puis il vend à peu près plus de crème parce que les restaurants sont fermés. Puis ils ont fait d'autres produits, puis ces 2 millions de litres-là ont été redirigés là, vers les banques alimentaires tout à fait gratuitement. Alors, il y a à peu près 700 000 litres là, qui ont été disposés là, sans trouver preneur, si on veut. Mais les producteurs ont mis en place tout un plan de réduire par des pratiques à la ferme. Puis déjà, on me dit là, que déjà partout sur le terrain, les producteurs adhèrent à ces pratiques-là, qui sont confiants qu'à rapidement, ils vont être capables de réduire leur production de 3%. Puis là, on ne parle pas sur une période de des mois, là, on parle sur une période d'une semaine, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Là. Alors, si c'est ça qui se passe, bien, l'excédent là, qui va rester à disposer puis, ou à essayer d'acheminer ou transformer différemment va quand même être limité. Alors, le ministre, ce qu'il peut faire, bien, c'est être au courant de ce qui se passe, c'est encourager les gens, de s'assurer qu'on aide aussi les banques alimentaires pour que les autres puissent, après ça, distribuer tous ces laits-là et tout ça. Mais c'est d'être vraiment en communication avec les transformateurs, avec tout le monde, là, pour s'assurer que tout ça fonctionne. Mais la chaîne laitière de transformation est très bien huilée, si on veut, au Québec. Là, puis les gens travaillent en partenariat d'une façon exceptionnelle, là, M. Levac.
Du côté des producteurs maraîchers, on n'est pas encore dans la pleine saison, mais déjà dans les serres, on a préparé des transplants. On s'apprête à aller mettre ça au champ. Mais problème de main-d'œuvre, grave problème de main-d'œuvre. En deux temps, là, avec Ottawa, avez-vous réussi à trouver vraiment là, la façon de faire pour que le plus possible de ces travailleurs étrangers puissent venir, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a une bonification possible au salaire minimum, par exemple, pour que des travailleurs locaux puissent aller prendre la relève sur des fermes qui manqueraient de main-d'œuvre étrangère?
Bien, ça, je vous dirais que c'est deux enjeux différents. Ce qui est important à court terme, là, il y a un certain nombre de travailleurs qui étaient prévus arriver. Puis là, écoutez, les nouvelles changent à tous les jours, mais la nouvelle d'aujourd'hui, là, c'est que d'ici 13, 14, 15 avril, là, il y a à peu près 1000 travailleurs ou un peu plus là, qui vont arriver ici. Les travailleurs du Guatemala, mais aussi les travailleurs du Mexique. Ça, c'est des travailleurs qui sont attendus. Alors, ce qui est important pour le maraîcher, c'est que à court terme, que les gens puissent semer. Puis après ça, l'inquiétude qu'ils ont, par contre, c'est plus tard, quand sera le temps de travailler les champs puis de récolter, est-ce qu'on va avoir la main-d'œuvre? Parce que aujourd'hui, le grand besoin de main-d'œuvre, je veux dire, il est dans plusieurs semaines, si on veut. Il n'est pas nécessairement demain matin, mais il y a certains besoins de main-d'œuvre demain matin, puis ces gens-là vont arriver bientôt. Alors, là, les nouvelles qu'on a du gouvernement fédéral puis des organismes là, qui s'occupent du transit d'arrivée de ces travailleurs-là, c'est qu'il y a eu des déblocages au Guatemala, il y a eu des déblocages au Mexique, et puis là, il y a beaucoup de travailleurs qui s'en viennent. Là, il y a tout l'enjeu après ça, naturellement, du protocole pour la quarantaine, s'occuper de ces gens-là et tout ça. Les défis sont très importants, mais là, il y a du mouvement au niveau des travailleurs. Question de mettre en place un environnement pour qu'il y ait davantage de travailleurs québécois, si on veut, qui convergent vers les fermes. Bon, on a des choses qu'on a préparées. On est en discussion avec l'Union des producteurs agricoles. Mais encore là, il y a toute une question de faire ça au bon moment, de la bonne façon. Alors, en temps et lieu, là, il y aura des annonces qui pourront être faites à ce niveau-là. Là.
Mais vous avez eu des discussions avec votre homologue fédéral, Mme Bibeau, là?
Ah, écoutez, Mme Bibeau, j'y parle. Si on ne se parle pas tous les jours, on se texte à tous les jours. Des fois, plusieurs fois par jour, sur tous les enjeux. Moi, j'ai une conférence téléphonique avec tous mes collègues ministres de la Culture à toutes les semaines. Mme Bibeau est sur cet appel-là. Puis, comme je vous dis, là, autant elle que moi, on se texte, on se parle le matin, le midi, le soir, sur tous les enjeux qui sont pertinents là, pour ce qui touche l'agriculture au Québec, puis même avoir l'initiative qu'on peut avoir ici, si on peut l'aider pour y en donner pour d'autres ailleurs et tout ça. On est vraiment en mode, tout en mode collaboration. Puis je dois vous dire, M. Levac, pour votre gouverne, depuis le jour 1 de la crise au Québec, comment on a organisé ça pour faire face à la situation, c'est que moi, tous les matins, à 9h30, il y a un appel conférence, puis cet appel conférence-là, il y a les producteurs, il y a tout ce qui touche les distributeurs de produits alimentaires, il y a la transformation alimentaire, il y a les fournisseurs d'intrants, les abattoirs, il y a les camionneurs, les restaurants, le commerce de détail, tout le monde est sur la ligne, puis on se parle pendant trois quarts d'heure, une heure et demie, on relève les enjeux de chaque filière est en contact, peut interpeller l'autre filière, et puis jour après jour, on fait ça 7 jours par semaine depuis le jour 1 de la crise, puis je peux vous dire que ça nous aide à avoir tout à fait le pouls de ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi les besoins qui sont criants, comment on peut répondre à ces besoins-là. Le lendemain, on a tout de suite de la rétroaction. Tout le monde, tout le secteur, je vous dirais, c'est vraiment exemplaire le niveau de collaboration qu'on a puis comment on travaille ensemble.
C'est sûr qu'on pourrait reprendre chacun de ces secteurs-là et énumérer des problèmes ou des défis, encore une fois, auxquels ces gens-là font face. Mais de façon plus générale, j'aimerais revenir sur la question de la main-d'œuvre.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une belle occasion, malgré la crise actuelle ou à travers la crise actuelle, une belle occasion de repenser un peu notre approche, notre système, de façon à ce qu'on soit moins dépendant de cette main-d'œuvre étrangère et de voir est-ce que, justement, on soit peut-être plus autosuffisant au Québec, pas seulement en produits, mais également en main-d'œuvre?
Ben écoutez, c'est une bonne question que vous posez parce qu'on le sait très bien aujourd'hui au Québec, mais pas juste au Québec, à l'Ontario, toutes les juridictions, je vous dirais, si demain matin on n'avait pas accès à cette main-d'œuvre-là étrangère, puis c'est pas une question de prix, là, c'est de ne pas avoir accès à cette main-d'œuvre-là. Je veux dire, nos systèmes agricoles puis nos systèmes de production agricole comme on les connaît pourraient à peu près pas fonctionner. Que ce soit l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, toutes les provinces. Alors, si vous dites qu'il n'y a pas lieu de revisiter ça, bien, je vous dirais très certainement il y a lieu de revisiter ça, mais écoutez, l'image ultimement pour en sortir, parce qu'ultimement il y a des populations entières à nourrir, là. Alors, mais c'est certain que ce qu'on traverse là, ça va amener certainement beaucoup de réflexions. Il y a déjà plein de réflexions qui se faisaient, mais là, ça va amener d'autres sortes de réflexions aussi, là.
Parce que ce serait dangereux d'entretenir cette dépendance-là en ne faisant qu'attendre que la crise passe pour reprendre exactement le même système.
Bien, tout à fait. Mais écoutez, des façons de produire, là, à un moment donné, quand on a quand même au Québec 8,5 millions de personnes à nourrir, après ça, on a 35-38 millions au Canada, on est dans un contexte aussi d'échanges commerciaux, bien, ça prend des productions quand même d'importance, si on veut. Puis pour ça, bien, il y a un bout, naturellement, qui peut être mécanisé, il y a des pratiques qui peuvent être changées, tout ça. Mais à la fin de la journée, là, il reste qu'il y a des importants besoins de main-d'œuvre qui sont là quand même, là. Puis cette main-d'œuvre, il faut qu'elle vienne dans quelque part, sinon c'est très, très, très problématique. Mais en même temps, toutes les filières sont poussées avec la technologie à être de plus en plus efficace pour avoir de moins en moins, c'est pas de dire de moins en moins de besoin de main-d'œuvre, mais que la composante de la main-d'œuvre soit de moins en moins aussi importante pour juger de la précarité ou pas d'un secteur, là, t'sais.
Et là, je pense qu'on rejoint certains éléments de votre politique bioalimentaire, là. Il faut quand même continuer de moderniser notre agriculture et de lui donner des moyens d'efficacité de haute technologie, j'oserais dire.
Bien, certainement, très certainement, des moyens d'efficacité, des moyens d'autres technologies. Aussi, ce qui est important, c'est que l'agriculture se transforme, les besoins des consommateurs ont changé, les pratiques environnementales ont changé, mais tout ça, c'est au cœur de la politique bioalimentaire, là. Puis il y a plusieurs chantiers qui sont en cours, justement, pour apporter des modifications ou faire en sorte que notre agriculture évolue, là.
Et justement, là, j'ai parlé un peu de la politique bioalimentaire. Tout ça continue? Vous continuez à travailler sur les objectifs de cette politique bioalimentaire malgré la crise?
Bien, écoutez, c'est certain que, première des choses, les fondements de la politique, et puis, je vous dirais, les quatre axes de la politique, le consommateur, les entreprises prospères, les entreprises innovantes, et puis toute la question environnementale puis les territoires, la politique est articulée autour de ces quatre facteurs-là. Ça va toujours être parce que c'est fondamental. L'autre chose aussi, la politique, elle est co-construite. C'est pas quelque chose qui arrive du gouvernement qui s'en va en bas puis c'est par là qu'on s'en va. C'est vraiment le meilleur du milieu qui se réunit puis qu'ultimement a accouché un peu de cette vision-là pour l'agriculture du Québec. Puis après ça, ben moi, depuis que je suis là, j'ai vraiment poussé pour qu'on développe un plan d'action pour la politique. Ce plan d'action qu'on a rendu disponible là, le 23 ou le 24 janvier dernier. Mais c'est certain qu'avec ce qui se passe présentement, puis où on va se retrouver après ça, bien, il peut y avoir des objectifs qui peuvent être revisités. Il peut y avoir des endroits où on va vouloir peser sur l'accélérateur, puis d'autres endroits où on va pouvoir réduire l'accélérateur. Il y a toute une réévaluation qu'il va falloir faire. Mais en même temps, le fondement même de la politique, puis la façon dont elle est construite, puis comment tout le monde y contribue, c'est certainement encore là le meilleur canevas pour travailler là, pour les mois et les années qui s'en viennent.
Et la pandémie actuelle de COVID-19 aura réussi à faire quelque chose que les gouvernements depuis 40 ans au Québec n'ont pas vraiment réussi, c'est-à-dire sensibiliser l'ensemble de la société à l'importance de l'agroalimentaire et d'une autosuffisance alimentaire plus grande pour la société québécoise.
Bien ça, tout à fait, je vous dirais, parce que moi, encore cet automne, dans une allocution, je relevais qu'une des préoccupations que j'avais, moi, qui est une grande préoccupation, c'est la fracture toujours grandissante entre ceux qui consomment puis ceux qui produisent ce que les gens consomment. Puis qu'ultimement, il fallait trouver une façon de réapprocher tout notre milieu agricole et toute notre activité agricole et les gens qui sont en l'air de ça avec ceux qui consomment. Et puis, ben, ce qui se passe là, naturellement, ça permet de mettre en lumière, un, l'importance du secteur. Après ça, l'importance de cette idée qu'on prenne soin de ce qui est produit chez nous puis qu'on en produise davantage. Alors, si on peut bâtir là-dessus, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir bâtir là-dessus. On va certainement avoir avancé, là, grâce à... Parce qu'il n'y a pas juste des mauvais côtés à la pandémie, là, mais ça va être un des bons côtés. Et puis, on avait plusieurs projets... Vous savez qu'on mettait de l'avant là, au ministère là, pour faire des avancées au niveau de notre agriculture. Ben, je suis tout à fait confiant qu'en sortant de la crise, ben, on va avoir encore davantage de soutien de la part de mon premier ministre, de mon gouvernement et tout ça, parce que ce soutien-là, je l'ai depuis le jour 1 pour différents chantiers que j'ai entrepris. Mais là, c'est certain qu'on, comme vous avez dit, l'agroalimentaire a été mis vraiment sous les feux de la reine, si on veut, là, puis ça va certainement nous aider encore davantage, là.
L'initiative Panier Bleu, bien sûr, achetons québécois, achetons de commerçants québécois, mais il faut aussi s'assurer que ce qui est sur les tablettes et ce qui est dans l'inventaire sur les sites de commande en ligne, eh bien, il faut qu'il y ait des produits québécois, là.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, il faut dire, l'initiative a été lancée. Écoutez, ça vise, c'est le ministère de l'Économie là, qui vise toutes les entreprises du Québec, si on veut. Là. Il y a le secteur biolantaire. Moi, si vous avez souvenir, j'ai lancé la construction ou la mise en place d'un répertoire de l'offre bioalimentaire québécois, là, que c'est strictement des produits québécois bio, pas bio, tout ce que vous pouvez imaginer. Là. C'est quelque chose, normalement, en avril, mai, là, qu'on dévoilait la première version du manuel. Puis ça, ce répertoire-là visait à s'assurer que tous les organismes publics, les institutions publiques, là, pour leur permettre d'acheter québécois, bien, ils pourraient se fier sur ce répertoire-là. Là. Alors, il y a les produits, puis après ça, il y a les entreprises. Le panier bleu, lui, vraiment les entreprises, si on veut, mais des façons de faire valoir les produits québécois, là, le répertoire va certainement être un très, très bon outil pour ça, là, au point de vue de l'agroalimentaire. Là.
Mais encore une fois, il aura fallu la crise, probablement, pour que, justement, ce répertoire redevienne d'une actualité encore plus chaude.
Là. Non, mais je vous dirais, le répertoire, moi, ça a commencé, parce que vous avez souvenir, quand j'ai été nommé ministre, quelques jours plus tard, il y avait une espèce de mini-scandale qui avait des CHSLD qui s'approvisionnaient en pommes des États-Unis. Puis là, ben, j'avais été interpellé à la joute. Puis moi, avant d'aller là, j'avais m'étais informé au ministère, bon, ben, quelles sont nos politiques d'achat institutionnel pour les produits québécois? Est-ce qu'on a un catalogue des produits québécois pour les gens qui achètent au niveau institutionnel? Puis à ma grande surprise, il n'y avait rien de tout ça. Fait que tout de suite, moi, j'ai enclenché tout un chantier, si on veut, là, pour arriver avec un cadre gouvernemental pour tout l'approvisionnement institutionnel en produits québécois alimentaires. Et puis, c'est quelque chose, là, que mai, juin, là, que je vais commencer à dévoiler les premiers grands plans de ce plan-là. Et puis, un des aspects, c'est vraiment le répertoire. L'an passé, au budget du ministre Girard, là, on avait débloqué 10 millions de dollars pour commencer à mettre ça en œuvre, à préparer ça. Puis, on est très avancé, là, dans ce plan-là. Puis, c'est sûr que la pandémie fait en sorte que tout est arrêté un peu au point de vue des activités de promotion puis de dévoiler les politiques et tout ça qu'on a développé. Mais aussitôt qu'on va remettre, si on veut, la machine en marche, là, on a des belles annonces là, qui s'en viennent là, pour le ministère de l'Agriculture puis les produits québécois. Là.
Parce que justement, si on veut continuer de viser vers les objectifs de la politique bioalimentaire et donc d'une autosuffisance, là, résumons ça comme ça, d'une autosuffisance plus grande, ben il faut continuer à investir et il faut investir dans des secteurs qui vont nous permettre justement de couper notre dépendance avec l'extérieur.
Tout à fait.
Et donc, on peut s'attendre à de belles annonces de votre part et peut-être de la part de M. Fitzgibbon ou d'Investissement Québec dans les prochains mois.
Ben écoutez, si vous regardez comme faut là, ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, là, on a placé 250 millions qui pourraient être répartis entre les petites, les moyennes, les grandes entreprises pour susciter des investissements. Après ça, on est allé avec l'automatisation, robotisation. Quand on est arrivé au budget de cette année, là, il y a tout notre plan en environnement. Après ça, on a développé 50 millions pour les serres, parce qu'on a tout un plan pour les serres qu'on est prêt à mettre en œuvre. L'automne passé, au mois de novembre, le ministre des Finances nous a transféré au MAPAC toute la question des rabais de l'électricité encore là pour les faire. On a plusieurs initiatives là, qu'on est toutes en train de placer. Ça va juste être de continuer ça avec le vent déjà qu'on avait. Puis écoutez, la situation qui est d'arriver là, peut-être qu'elle nous a mis un petit peu plus de vent dans le dos encore plutôt que mettre du vent en face. C'est plus pour nous autres dans le milieu agricole, avec tout ce qui se passe là, c'est plus un vent dans le dos qu'on va avoir. Mais je peux vous dire qu'on a mis en place l'équipe économique bioalimentaire Québec justement pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun projet qu'on puisse échapper au Québec. La financière agricole, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et Innovation, et puis Investissement Québec, là, depuis plusieurs mois, on a mis une structure en place où les quatre travaillent de façon coordonnée là, pour faire en sorte là, qu'on échappe à peu près aucune opportunité dans le milieu bioalimentaire. Là. C'est une autre chose qu'on a mis en place et qui va nous donner beaucoup, beaucoup de leviers là, pour le futur. Là.
En terminant, M. le ministre, votre plan d'agriculture durable, ça aussi, ça tient toujours, vous continuez dans cette voie?
Ben écoutez, là, ce qui était prévu, c'est qu'avant la fin de la session, que j'allais pouvoir rendre ça public. Là, j'ai pas l'agenda législatif. C'est sûr que maintenant, le MAPAC, si vous allez là, où tous nos fonctionnaires travaillent tous en télétravail, mais je peux vous dire qu'on continue à travailler. Il y a des choses qui se font différemment, mais tout le monde est au travail. Alors, si c'est pas au début de juin, ça va être plus tard, là, mais tout était pas mal prêt. Là. Alors, on va certainement continuer dans la même direction à ce niveau-là. Là. C'est le souhait certainement qu'on fait. Là.
Bien, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, merci beaucoup pour ces détails-là. Puis, si vous êtes d'accord, bien, dans les prochaines semaines, on essaiera de nouveau de faire le point, un tour d'horizon là, de la situation.
toujours un plaisir de parler avec vous, M. Levac. Portez-vous bien.
Même chose pour vous. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Ici Lionel Levac. La crise n'est assurément pas terminée. La détermination du ministre André Lamontagne à poursuivre malgré tout les objectifs de développement de l'agroalimentaire ou du bioalimentaire québécois est aussi une bonne décision, car il y aura l'après-crise, bientôt espère-t-on. Le ministre doit aussi en parallèle profiter du moment pour engager une réflexion sérieuse sur nos façons de faire. Peut-être pourrions-nous éliminer ou à tout le moins réduire certains facteurs de risque, certaines pratiques qui rendent le secteur vulnérable et de ce fait ne servent pas bien la société québécoise. Pensons à toute la question de la main-d'œuvre. Pensons au réflexe de rechercher des approvisionnements extérieurs parce que soi-disant moins cher. Aussi, acheter chez des commerçants québécois est bien, mais ceux-ci doivent encore davantage donner priorité et visibilité aux produits d'ici. Au revoir.